Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. C'est CCC numéro 32, comme c'est ça la classe, une bande de chroniqueurs lycéennes et lycéens autour de la table. Nous commençons l'année 2016 sur Radio Diwa, la radio du Diwa, la radio des Diwa et même au-delà, 107.5, vous le savez puisque vous êtes avec nous, ou rdiwa.fr en flux direct. Et quand je dis même au-delà, plus que jamais aujourd'hui, puisque nous avons le privilège, les lycéennes et lycéens ont le privilège d'accueillir Serge Dufoulon, bonjour.
Bonjour.
Qui est professeur de sociologie à l'université Pierre Mendès France de Grenoble et qui, accessoirement si j'ose dire, mais c'est aussi un peu pour ça qu'il est là, anime lui aussi, enfin participe à l'animation d'une émission connue sur RMC Info, Les Grandes Gueules, qui existe depuis une dizaine d'années. Oui. Donc c'est une grande gueule que nous accueillons.
Voilà. Et je passais par là, je me suis arrêté, j'ai vu Fabien, j'ai dit Fabien, qu'est-ce que tu fais? On va boire un coup. Il m'a dit non, va à la radio. J'ai dit je te suis.
C'est une très jolie version, presque proche de la réalité de Serge Dufoulon. Je l'accepte, je la prends. Il a surtout accepté gentiment notre invitation. Mais j'aime bien cette version-là aussi. On verra avec vous tout à l'heure quelles sont vos œuvres au sens large du terme, littéraires, œuvres professionnel. Et puis, qu'est-ce qui vous intéresse dans cet exercice que vous pratiquez depuis 4 années, c'est ça, sur RMC Info?
Ouais.
Comment vous êtes retrouvé là, en gros? Ça nous intéressera. Je dirais comment vous êtes retrouvé là dans votre vie professionnelle, mais aussi à la radio, sur les ondes, assez régulièrement. Et puis, peut-être que vous pensez un petit peu
à
ce milieu-là. On pourra peut-être un peu balancer. Vous répondrez aux questions. Un peu, seulement.
Oui.
il faut être solidaire avec ceux avec qui on travaille toujours. N'est-ce pas, chers lycéens? Je vous laisse vous présenter autour de la table. Bonjour Mathieu.
Bonjour à tous.
Lucien.
Ouais, salut.
Bonjour Maxime.
Bonjour Maxime, bonne année.
Merci à vous aussi.
Et bonne année aux auditrices, aux auditeurs du Diwa et même au-delà donc.
Bonjour à tous, bonjour à tous.
Bonjour Siedel.
Bonjour à tous.
Bonjour Pauline.
Bonjour.
Bonjour Louise.
Bonjour, bonne
année.
Et
on va présenter, bonne année à toi, merci, les deux petits nouveaux d'aujourd'hui. Bonjour Alexandre.
Bonjour à tous.
Et bonjour Jérémy.
Salut.
Donc c'est leur première, soyez indulgents, mais je les sens déjà performants. En tout cas, ils ont l'œil qui brille. On n'a pas, contrairement à RMC Info, on n'est pas filmé. Mais je peux vous assurer, faites confiance à ma bonne foi, qu'ils sont prêts et déterminés pour évoquer les trois sujets du jour. On terminera l'émission en évoquant les diplômes. Les diplômes font-ils forcément la compétence professionnelle? Ou, après tout, un peintre, un coiffeur, c'était un peu l'idée émise il y a quelques semaines sur les ondes par M. Macron, notamment le ministre de l'économie, pourrait, sans forcément un diplôme officiel, comme un CAP par exemple, tout à fait monter leur salon de coiffure? Ou un professeur est-il forcément meilleur s'il a plus d'années après le bac que quelqu'un qui a moins d'années après le bac? On discutera de tout ça. Évidemment, les lycéens ont forcément un avis là-dessus. Juste avant ça, on parlera de laïcité. Et évidemment, c'est un peu la tarte à la crème en ce moment, on en parle beaucoup suite aux événements et on est en pleine semaine de commémoration, on dira certainement un mot là-dessus aussi, des doubles attentats, on va dire, de janvier et de novembre dernier. Mais la laïcité, de manière générale, c'est souvent un mot. La journée de la laïcité est décrétée, si je puis dire, depuis 2 ans, je crois, maintenant. C'est en décembre que ça se passait, juste avant les vacances de Noël. On a eu l'occasion d'en parler lors du dernier CSA à la classe. Donc pour vous, lycéennes, lycéens, qu'est-ce que ça veut dire que la laïcité? Est-ce que c'est un mot? Qu'est-ce que ça recouvre? Est-ce que c'est spécifique à la France? Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que ça n'a pas franchement de sens? En toute honnêteté, comme d'habitude. Mais on va commencer cette émission en parlant d'alcool. Oui, parce que le binge drinking, comme on l'appelle en anglais, ou les bitures express en français, sont un phénomène relativement récent, notamment dans le milieu étudiant, on va dire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous concerne? Vous avez déjà entendu parler de ça? Est-ce que votre rapport à l'alcool n'est que théorique? Est-ce que, sans forcément parler de la vie privée de chacun, est-ce que c'est un phénomène que vous avez déjà entendu parler avant qu'on en parle aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez? Juste un petit mot. Non, je dirai après le petit mot. On va écouter Lucien qui est prêt à parler. Juste après avoir rappelé que vous pouvez nous appeler évidemment en direct au 0952 368 531. 0952 368 531. Nous sommes en direct jusqu'à 13h10. N'hésitez pas si vous voulez porter la contradiction à Serge Dufoulon. Attention, c'est un pro de la radio, donc vous allez avoir affaire à un coriace. Mais c'est le but du jeu. On est là dans l'idée de faire de la bataille argumentative, et c'est ça qui fait travailler la matière grise. Lucien, nous t'écoutons.
Ouais, je veux juste savoir, le binge drinking, c'est bien le fait de boire le plus vite possible et le
c'est
plus.
Cela.
Oui, c'est ça. Dans un
Donc Lucien, tu as super bien préparé l'émission aujourd'hui. On commence
oui,
bien.
Effectivement. Non, mais j'oubliais juste. C'est une pratique qui est de plus en plus courante, juste par rapport au nombre de, du moins à l'alcool que l'on boit aujourd'hui, du moins que les jeunes boivent. Mm-hmm. Donc qui est plus un alcool fort par rapport à avant, vraiment. Donc, du coup, la pratique du binge drinking qui fait que les jeunes doivent se mettre dans un état minable le plus rapidement possible et possible vraiment avec des alcools forts. Par exemple, c'est moins dur de boire peu d'alcool, mais d'en boire peu, mais fort, qui va faire qu'on va être bourré beaucoup plus vite que boire beaucoup de vin, par exemple, et être bourré beaucoup plus difficilement, je pourrais dire.
C'est quelque chose que tu as déjà observé dans ton entourage? Est-ce que tu as des plus grands frères ou des amis qui sont étudiants? On va parler des gens majeurs, pour l'essentiel.
Est-ce que tu pratiques?
Je vois des sourires.
J'ai jamais pratiqué de beach
drinking. Voilà, Serge Dufoulon pose la question que je n'osais pas poser, mais il a raison. En gros, c'est là que je voulais en venir.
C'est pas quelque chose que je n'ai pas trop voulu pratiquer. Après, j'ai déjà eu une expérience en soirée, j'ai déjà bu, mais ce que je veux dire, c'est que moi, personnellement, j'ai des proches qui ont déjà fait ça. J'ai une grande sœur, je connais des amis qui pratiquent ça, et oui, c'est une pratique de jeunesse qui est d'actualité et qui peut être vraiment nocive.
Quel est l'intérêt, d'après vous, aussi vite de se retrouver minable, bourré, comme tu l'as dit? Et finalement, trouver que ses copains sont si sympathiques qu'au bout d'un quart d'heure, on va oublier qu'ils sont là et même plus rien partager avec eux, me semble-t-il, moi si vous n'êtes pas d'accord, au point qu'on est minable et qu'on va aller vomir dans les cabinets, hein, pour parler clair. J'en profite pour rappeler qu'on a reçu Laurence Côté. Alors certains d'entre vous, hein, pas tous ceux qui sont salariés scientifiques, l'ont reçu à l'amphithéâtre du lycée. Laurence Côté, c'est une dame qui a été très 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 loin dans l'alcoolisme, qui avait fait un témoignage face caméra, vous savez, à la fin de 7 à 8, l'émission de Rosenmack sur La Une, où c'est un témoignage, c'est Thierry Demézière, je crois, le journaliste qui l'interview, face caméra, assez poignant, d'une dizaine de minutes. Elle nous l'a projeté d'ailleurs dans l'amphithéâtre du lycée, et ensuite elle a discuté longuement avec vous. Vous avez pensé quoi de ce témoignage pour ceux qui étaient là? Donc les scientifiques, tu en es un, tu étais là.
Poignant, tout simplement, impressionnant. Ça nous a donné tout de suite... Ça nous a beaucoup fait réfléchir en fait sur ce qu'était l'alcool, vraiment
en
sur le danger, sur le danger que ça pouvait représenter, sur comment ça, où est-ce que ça l'amenait. Ça nous a vraiment, moi ça m'a fait peur personnellement, et ça m'a donné envie de faire beaucoup plus attention en soirée, d'essayer de moins consommer d'alcool tout simplement.
Et c'est quoi l'intérêt d'aller aussi vite alors, les autres? Si on faisait un tour de table rapide, juste après vous pourrez développer, mais votre rapport à l'alcool, si vous deviez, c'est difficile à quantifier, mais dire qu'il est raisonnable, un peu excessif parfois, jamais, ça pourra peut-être arriver. Allez, commençons par Pauline.
Bah écoutez-moi, c'est raisonnable.
D'accord.
Et je pense que...
Allez, puisque les parents écoutent peut-être, on ne va même pas citer les prénoms, pardon, on va juste faire un tour de table, d'accord?
Vas-y, continue. Je pense que l'intérêt de boire très vite, si je me mets à la place de ceux qui le font, c'est de plus profiter de leur soirée parce qu'on est peut-être moins timide quand on est un peu entamé. Je pense que ça peut être
c'est intéressant comme terme.
Un côté de.
Je n'avais jamais entendu celui-là. Serge Dufoulon, vous avez entendu entamé.
Ouais, moi j'aime bien le terme entamé.
J'aime bien la métaphore.
Je veux dire, le bridge drinking, ce n'est pas une pratique française parce que traditionnellement, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a plusieurs façons de boire, il n'y en a pas qu'une. Traditionnellement, on buvait et puis il faut arrêter de raconter des histoires aux jeunes. On a bu, moi quand j'avais 14 ans, j'ai bu, on picolait dans les fermes, les fils de fermiers ramenaient de l'alcool dans les internats, on s'est fait même, on a eu des cols pour ça et tout. Donc il faut arrêter de raconter des histoires aux jeunes.
Pas dans ce concours de vitesse.
Par contre, voilà, ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est cette volonté d'aller très vite, de ne pas boire en mangeant par exemple, parce qu'on buvait en mangeant souvent. Ou après, mais on avait déjà mangé hein, quand on sortait après avoir quitté les parents, notamment pour la pause d'aimer que je raconte dans mon livre. Bon, on prenait des cuites monumentales. Je veux dire, bon, il faut quand même se raconter à quatrième, troisième. Moi, j'ai pris mes premières cuites, c'est pas une médaille d'honneur. Hein, il faut pas dire ça non plus. Mais je crois pas que l'alcool ce soit le principe pernicieux. Je crois que le principe pernicieux, c'est comme les champignons, il en existe dans la nature, il y en a des vénéneux, il y en a des bons. Pourquoi on ne va pas manger le vénéneux? Donc je crois que l'alcool, ça doit être quelque chose de festif, d'occasionnel, de mesuré, pas prendre la voiture après, de prendre ces questions de responsabilité, mais ce n'est pas beach drinking, c'est un truc d'anglais ça.
Oui. Et dans le milieu étudiant, parce que vous êtes professeur d'université, est-ce que vous avez des échos,
j'imagine? Moi, je les trouve plutôt sages.
Ils sont plutôt sages, les étudiants?
On était plus fous à mon époque, je pense.
D'accord.
Ouais, je les trouve plutôt sages. Bon, ils boivent, ils font la fête aussi. Bon, comme on l'a tous fait, hein, mais bon, comme vous le ferez vous, les jeunes là, qui arrivent derrière nous. Mais je les trouve globalement plutôt sages. Non.
C'est rassurant.
Bon, je pense pas qu'avant, c'était mieux, comme on dit. C'est pas vrai. Je crois que chaque génération a ses moyens de faire la fête, ses formes aussi, festives ou non. Donc, voilà, mais...
Nous aurons rejoint dans le studio Louis, Quentin et Ilan, qui étaient un peu à la bourre, mais je ne balance personne. On continue le tour de table sans forcément citer votre prénom, si ça vous gêne éventuellement. Rapidement, Allez, on t'écoute en premier. On dit pas qu'un anonyme. Donc raisonnable.
Sur ma pratique de l'alcool, bon, ça arrive que ce soit quelquefois excessif. Enfin, quelquefois. Mais je voulais revenir sur. On parle de modes de faire la fête qui sont différents, qui évoluent avec le temps. Et je pense que la mode actuellement est plutôt drogue. Donc voilà, sans vouloir.
Du genre.
Parce que les drogues, c'est un terme large.
En général.
L'alcool étant une drogue potentiellement, à partir du moment où on est dépendant, c'en est une.
Je parle de drogue dure.
L'alcool est une drogue dure. Mais, l'alcool peut être une drogue dure, hélas.
Mais c'est pas considéré comme une drogue dure.
Quand c'est alcoolique, si.
Voilà. Après, culture française, viticole, etc., évidemment, on regarde le vin un peu de manière différente, mais le vin en tout cas.
Boire de manière festive une fois, c'est pas être alcoolique, mais boire tout le temps, même des petites quantités, voire du binge drinking, là on peut devenir alcoolique, et là c'est dur.
Bah alors je parle plutôt de drogues créées artificiellement, donc comme le LSD, etc., qui sont beaucoup plus à la mode en ce moment, et donc quand on parle de jeunes fêtards un peu fous, on rentre facilement aujourd'hui dans le domaine de la drogue. Et donc en fait, l'alcool devient. Enfin, ça. On a une. Donc la pratique du beach drinking.
drinking. Biture express. Ça sera plus simple.
Ça devient plus courant, c'est plus banalisé. Parce qu'on a, on a un extrême de plus de la beuverie justement, mais de la fête qui est bien plus poussée, donc avec l'usage de drogues dures. Et donc ça va généraliser donc la consommation d'alcool.
Mais ça apporte quoi comme sensation? C'est ça que je ne comprends pas très bien. C'est-à-dire que très vite, on ne sait plus où on habite, j'imagine. Donc quel est l'intérêt de la fête? Elle n'est pas un peu gâchée quand même par le fait qu'on soit un peu ailleurs et qu'on soit malade en fait?
Non, parce que quand on est tous ailleurs et tous malades, on rit bien.
Ah bon? Ben oui, mais si plus personne n'a conscience de rien, c'est un peu bizarre quand même. Enfin,
c'est
oui.
Pas forcément vrai. Hein.
Noé, c'est pas forcément vrai, dit Lucien.
Les gens qui sont conscients.
Noé?
Oui, mais t'as aussi, il faut quand même dire aussi qu'il y a pas mal de bistrots en ville, notamment à Grenoble, mais bon, à Grenoble ou ailleurs, qui font des after hours où tu bois des petits verres pour pas grand chose, des petits verres d'alcool fort, et puis t'en bois
happy un hours et after
happy hours,
hours
et
ça,
after
ça,
hours,
ça,
hours
c'est la mode,
voilà.
Ça.
Donc, qui n'étaient pas des habitudes françaises il y a 20 ans.
Comme leur nom l'indique de tout ça, oui, binge drinking, happy hours, c'est encore les anglo-saxons.
Donc, ça profite aussi aux commerçants. Quoi, je veux dire, aux commerçants. Hein.
Noé, tu veux dire quelque chose?
Oui, c'est pour l'intérêt des jeunes à cette pratique. L'intérêt de boire de l'alcool, c'est pour passer une meilleure fête avec ses copains et tout. Mais bon, quand tu.
Moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Pardon, mais
ça désinhibe.
Oui, non, mais d'accord. Mais
ça désinhibe,
ça, certes. Quand tu pratiques ces choses-là, la fête, elle est bien, mais un quart d'heure, quoi, c'est
voilà.
Tout. Après, tu te souviens plus rien, tu te mets en danger, tu mets en danger les autres aussi, pour notamment la voiture.
Conduite,
et puis voilà, quoi. Moi, dans mon cas, ma.
À votre âge, la voiture, pas trop quand même. Mais bon.
Non, mais heureusement.
Pas encore.
Non. Mais moi. À mon âge, ma consommation d'alcool est raisonnable, je dirais. Et franchement, l'intérêt, non, je le vois toujours pas. Peut-être que ça changera quand je serai plus grand.
Vous vous souvenez de ce qu'avait dit Laurence Côté, l'intervenante, ce qu'on considère. Alors, il y a encore des discussions, il y a eu des polémiques il n'y a pas longtemps par rapport au fait que la campagne était même pas, ne collait plus aux réalités scientifiques, etc. Mais enfin, en gros, combien de consommation normale, entre guillemets, en verre de vin, les verres ballons, hein, pas les verres dans 2 litres, ça n'existe pas, mais c'est combien à peu près par jour, avec une petite différence pour l'homme et la femme, mais là aussi c'est tellement différent et subjectif selon les individus. Elle l'a dit, ça je me souviens.
Je disais pas 2 litres, du moins litres. Deux verres.
Ah, tu m'as fait peur. On parlait de verres, oui, c'est ça. C'était, je crois, 3 verres de vin par jour, hein, pas par repas, par
pour
jour.
Pour un homme et 2 verres pour une femme.
Voilà. Et même ça, c'est parfois sujet, c'est caution à discussion, parce que certains médecins disent que depuis pas longtemps, que finalement, 0 verre de vin, c'est très bien aussi, que dès le premier verre, on peut pas forcément devenir dépendant, mais c'est pas forcément bon pour la santé. Évidemment, les lobbies viticoles, et on est dans un pays où le vin c'est important, et on peut le comprendre aussi. Eux affirment depuis longtemps, mais c'est un peu en train d'être mis en cause, que justement 2 verres de vin, non seulement c'est pas dangereux par jour, mais c'est peut-être bon pour les artères et le cœur. Tout ça, c'est compliqué. Hein. Nous, on n'est pas scientifiques, enfin, moi pas, vous bientôt. Vous êtes en première scientifique pour certains. Louise, vous étudiez pas ça peut-être au programme? Non, c'est pas au programme ça. Les effets. Si, c'est pas vrai, parce que je sais qu'en en enseignement d'exploration en seconde, vous allez visiter la cave.
En MPS, ouais.
La cave coopérative. Louise.
Moi, je voulais dire que je pense que si les jeunes ils font ça, enfin pour le binge drinking, et ben c'est qu'ils veulent repousser leurs limites. Enfin, je sais pas, j'ai jamais fait, mais bon, je pense que c'est pour ça. Et il y en a plein qui aiment bien jouer avec la mort pour avoir de l'adrénaline. Et du coup, je pense que ça doit être pour ça aussi en partie. Après, je suis pas sûre que. Je sais pas.
Louis,
je me permets juste d'intervenir, mais jouer avec la mort, c'est un poil fort comme terme pour se mettre une cuite quand même.
Un peu excessif,
ouais. Ça peut en faire des trucs quand même.
Oui, mais il y a quand même une différence.
Ça peut être comme éthylique, oui.
Oui, ça peut, mais il y a quand même une différence entre la situation de laquelle tu parlais et jouer avec la mort, quand même. Enfin, c'est...
Et comment tu es sûr que ça n'arrivera pas? Je ne le souhaite à personne, mais est-ce que tu penses que ceux à qui ça arrive, le coma éthylique, voire la mort, hein, c'est arrivé à la fin de fête, même si c'est plutôt rare, est-ce que tu penses que quand ils ont commencé à boire, ils se sont dit ça va se finir comme ça? Est-ce qu'ils ne se sont pas dit comme toi, Louis, de toute façon, attention, on fait que se mettre une cuite, je vais commencer comme ça?
Non.
Celui à qui ça arrive et ça se termine tragiquement, à mon avis, il a le même état d'esprit que toi au départ, non?
Non, mais je dis pas que ça peut être dangereux, mais jouer avec la mort, enfin utiliser quand même le terme jouer avec la mort dès qu'on boit de l'alcool.
Mais non, mais bah, c'est juste dans le cas du binge drinking que je disais ça. Pas quand tu, voilà, quand tu bois 2-3 verres, bon, ça va.
Il y a quand même une grosse différence.
Tous les jeunes n'ont pas des tendances suicidaires quand même.
Le coma éthylique, c'est loin.
Non, mais justement. C'est qu'ils croient qu'ils sont à l'abri d'eux.
On sait que ça touche principalement les jeunes, mais quand même.
Il y a aussi des adultes après.
Pas forcément que les jeunes.
Non, mais
sauf
apparemment,
que les
c'est la première.
Ils savent mieux le cacher en général. Ouais.
Mais apparemment, c'est les premiers victimes de suicide, les jeunes, je crois.
Oui, bah, c'est la première cause de suicide devant les accidents de la route. Entre 18 et 25 ans.
C'est intéressant ce que vous dites parce que d'abord, la vie est une aventure mortelle. Vous pouvez mourir en traversant le Vercors en voiture, en traversant la rue, en allant chez Dupin, glisser sur une peau de banane, j'en ai vu. Et bah oui, on peut mourir de différentes façons et auxquelles on ne pense même pas, avaler de travers par exemple. Ça m'est arrivé, je le raconte là-dedans. Donc, ouais, c'est vrai en plus. Donc non, le problème c'est quel type de société fait que les jeunes ont envie d'aller boire, soit du binge drinking, soit du social drinking, c'est-à-dire boire à table en mangeant et tout, comme on le faisait traditionnellement. Quel type de société produit ça? Il ne faut quand même pas s'oublier que depuis les années 90, vous n'allez pas connaître ce que Fabien, votre professeur, ou moi-même, nous avons connu, c'est-à-dire de la liberté euphorique presque dans les rencontres amoureuses, de la liberté de pouvoir aller dans un concert, etc., sans être encadré par des flics. Vous avez un futur qui n'est pas le même que le nôtre. Bon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile pour trouver un jeune de trouver sa place dans la société, notamment un lycéen ou un étudiant, que pour nous, dans les années 80-90. C'était beaucoup plus ouvert. Donc aujourd'hui, on est dans une espèce de.
On veut dire par là que c'est une forme de fuite, l'alcool.
Il y a une forme de fuite, mais pas que ça. Il y a aussi un procès de la société qui veut établir une sorte d'hygiénisme. Hein, c'est-à-dire, il ne faut plus boire, il ne faut plus faire l'amour, il ne faut plus sortir, il ne faut plus conduire.
Les interdits sont.
On va vivre combien d'années avec ça? Ça n'empêche pas de mourir. Je veux dire, bon.
Oui, Noé. Je rappelle juste avant ça à nos auditrices et auditeurs qui tardent à appeler 0952 368 531. Vous n'êtes pas d'accord avec Noé, avec Louis, avec Serge Dufoulon. 0952 368 531. On vous attend avec impatience. Noé et Lucien.
Oui, c'était juste pour dire que je pense pas que les jeunes pratiquent le Biture Express pour faire une fuite ou pour fuir la vie. C'est plus pour profiter.
Faire la fête.
Faire la fête, parce que comme vous dites, la société, c'est difficile pour un jeune de trouver sa place et ça fait peur forcément de se dire que bah, bientôt on aura un travail, des responsabilités, alors on en profite et des fois on en fait un peu trop et ça dérape.
Bah donc c'est un peu une fuite quand même, tu es en train de dire un peu à la fin de la phrase, je trouve le contraire de ce que tu as dit au début,
non,
si
non,
je puis me permettre.
Pas une fuite.
Parce qu'on a peur de l'avenir,
en profiter,
ce que disait Serge Dufoulon d'ailleurs.
Oui, quand on a peur, mais pas forcément.
Mais se lâcher, quoi.
Oui, se lâcher, en profiter au maximum.
L'illusion d'être ensemble plus facilement, peut-être.
Mais profiter un maximum, qualitativement peut-être, mais enfin quantitativement, pardon d'y revenir, mais si au bout d'un quart d'heure, on est oublié à sa propre conscience, à la conscience des autres, moi je trouve que vous avez un sens de la fête, si je puis me permettre, quand même très limité dans le temps chronologique, la temporalité.
Ça permet de se libérer, en fait, je pense.
D'accord, mais très furtivement.
Oui.
Et est-ce que quand on se libère un peu trop, on n'arrive pas à faire des bêtises? Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi le type de dérapage qu'il peut y avoir dans les fêtes quand on a un peu trop bu en particulier? Du genre?
Pas se souvenir ou alors... Ça
de
peut...
quoi?
Pas se souvenir de sa fête, tout simplement.
C'est-à-dire? Non, je veux des détails.
Non, il n'y a pas, aucun détail, ça m'est jamais arrivé déjà. Le coma éthylique, il peut y avoir...
Non, je parle
ça désinhibe,
ça,
on peut devenir plus violent, violer une fille sans s'en rendre compte.
Bah, pour violer une fille, il faut quand même déjà avoir peu de conscience de ce que c'est qu'une personne.
Non, mais je parle, il peut y avoir un acte de viol, mais
on l'aurait pas fait si on n'avait pas bu, peut-être.
Il y a des choses qui peuvent mener à ça.
Il y a énormément de choses, mais... Moi, je voulais surtout parler, vu que vous m'avez poussé là-dessus, mais je voulais parler si tu fais.
Je vous pousse rien du tout.
Pourquoi est-ce que les jeunes veulent, du moins, boivent et pratiquent ces. Moi, je pense plutôt que c'est. Donc, il y a beaucoup de facteurs et beaucoup de raisons. C'est d'abord parce qu'ils veulent s'éclater. C'est la raison principale quand on dit pourquoi est-ce que je bois, bah parce que je veux m'éclater, parce que j'ai envie de faire la fête. Et que maintenant, ici, dans cette société, on conçoit la fête avec l'alcool. Il y a peu de monde qui conçoivent la fête sans alcool. On va voir nos parents dès qu'ils font une fête.
Depuis l'Antiquité, voilà. C'est comme ça. Hein. Pense au Bacchanal, ouais. Par exemple, c'était déjà comme ça. Hein.
Tout le monde boit de l'alcool. Le but, la fête, en fait, c'est de se rendre euphorique. Le meilleur moyen de se rendre euphorique, c'est de boire quelque chose qui nous rend encore plus euphorique.
Connaissez l'alcool, les Bacchanal, Bacchus, vous dites quelque chose, Bacchus?
Oui.
Dionysos,
oui.
C'est le même. Oui, Pauline.
Écoutez, moi, au contraire, je pense que, en quelque sorte, l'alcool, c'est un peu une fuite. On fuit les choses qu'on voudrait ne pas avoir à affronter et on ne prend que ce qu'il y a de bien et l'alcool fait ressortir le côté positif de la vie et c'est un peu oublié.
Ça fait mauvais
pour les personnes.
Oui, qu'on est
moi, je crois, Pauline, que ce qu'il faut d'abord voir, si tu veux, dans la fête, avec l'alcool, y compris l'alcool ou parfois la drogue, c'est que c'est un moment transgressif. C'est un moment qui sort du quotidien. Où on va se retrouver, quelles que soient les générations, parfois, quels que soient les milieux sociaux, la bourgeoise, le prolo, machin et tout. Donc, quelque part, c'est un moment transgressif qui permet de rompre un peu, et là, c'est l'anthropologue qui parle, qui permet de rompre un peu avec les situations cloisonnées du quotidien où chacun est bien chez soi, dans sa catégorie sociale, dans son petit milieu, avec sa petite bande de copains, etc. Donc, la fête, ça a une dimension transgressive.
Est-ce et quand que la on fête, on la fait pas un peu entre soi quand même, en fait.
Bah oui, aussi bien sûr, bien sûr.
Ça casse totalement ça.
Notamment les rallyes chez les riches et tout. Oui, voilà. Où on présente des jeunes filles bonnes à marier, de familles très riches, avec des garçons bons à marier, de familles très riches.
Bon.
Mais je veux dire, quand on parle vraiment de fête,
quand on parle vraiment
de fête, il y a un auteur qui a travaillé là-dessus qui s'appelle Duvigneau. Quand on parle vraiment de fête, c'est le côté transgressif. On se lâche et on se rencontre. Et là, évidemment, ils peuvent apparaître l'alcool, d'autres moyens, etc.
Mmh. Oui, c'est Mathieu.
Ouais, moi, c'était pour réagir par rapport à ce qu'avait dit Louise tout à l'heure. Par rapport à l'adrénaline, je suis pas trop sûr que ce soit lié à l'adrénaline parce qu'on est quand même dans une société, vu tous les progrès qu'on a fait au niveau des loisirs, où on peut ressentir de l'adrénaline encore plus, enfin beaucoup plus forte qu'après avoir bu un canon avec tout ce qui existe. Et ensuite,
sport,
je pense
par
que...
exemple, parce qu'il y a quelques sportifs parmi vous, non, c'est à ça que tu penses notamment.
Ouais.
Je sais pas moi, le Benji, le saut dans le vide,
ouais.
C'est vrai que dans les fêtes foraines,
il y a plein de trucs quoi.
Le ski hors piste ou des trucs comme ça. Ouais.
Et ensuite, je pense que ce qui est important de souligner aussi dans l'alcool, c'est que c'est comme tout, sans accoutumance, il faut savoir que vu que c'est quand même on est en France et que c'est très très répandu, bah ça s'apprend et qu'il faut faire doucement et savoir doser. Et puis comme disait, pas atteindre ses limites, mais justement le plus important c'est de savoir où elles sont. Et de ne pas vomir, quoi.
C'est ça qui est un peu difficile, peut-être, de justement d'établir les limites. On revient à ce que disait Louis tout à
l'heure. Au début, il faut commencer. Et puis, dès qu'on voit que ça va mal, bah, on arrête. Et la prochaine fois, on sera plus raisonnable.
C'est raisonnable.
C'est déjà trop tard.
Il faut bien une première fois.
Ouais, voilà. Mais bon.
Monsieur Quentin.
Alors, bonjour déjà, parce que tout à l'heure, j'étais en retard.
Je t'ai cité lorsque tu arrives en retard.
Voilà. Alors, moi, je voudrais intervenir sur ce sujet, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez important. Aussi sur l'intervention de Laurence Côté. Donc moi j'ai trouvé que c'était une intervention c'était formidable. C'est très très bien de sa part d'intervenir comme ça dans les lycées parce que du coup ça fait réfléchir les jeunes. Et puis ça change aussi des autorités parce que les autorités nous disent juste de pas consommer, ne donnent pas de raison.
Alors les profs, les proviseurs, les gendarmes, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Alors que là, c'est quelqu'un qui est passé par là, c'est un témoignage et ça nous montre que faut pas trop en abuser de l'alcool parce qu'après, à long terme, ça peut être grave, qu'on peut vite devenir indépendant et...
Dépendant.
Dépendant et il faut savoir gérer son truc et pareil en soirée, quoi, ne pas abuser, boire un petit peu pour s'amuser peut-être un peu plus, mais savoir gérer, quoi.
Vous avez déjà fait des fêtes sans alcool? Est-ce que vous avez la possibilité, vous savez qu'on dit que le début de l'alcoolisme c'est ça, c'est le type qui tous les soirs prend son petit verre de pastis ou de whisky et qui n'est pas capable un seul soir sur sept de se dire ce soir je ne le fais pas. Oh, demain j'arrête, hein, c'est comme pour fumer, mais en fait il ne le fera pas, ça sera 7 jours sur 7. Et les médecins disent que ça peut être le début, ça peut commencer très tôt le début de la dépendance. Est-ce que vous êtes capable de vous dire aujourd'hui, ce soir on se fait une fête sans alcool?
En tout cas, depuis qu'on est tous ensemble en seconde, non, on n'a pas fait encore une seule fête.
Bien sûr que si.
Ah bah mettez-vous d'accord, c'était pas les mêmes peut-être.
Bah donnez-moi un exemple parce que
tu as pas dû être invité quand celle-ci, c'est dommage. À l'internat.
Si, oui, oui.
À
ah, oui,
l'internat,
oui,
qu'est-ce l'internat, qu'on vous racontait ah, si, oui, la fête avant Noël.
Les soirées plutôt, ouais, des soirées.
Vous me faites peur, d'accord.
Oui, oui, si.
Monsieur Maxime.
Oui, donc c'est pour rebondir sur ce que vous venez de demander. On n'a pas toujours eu 16 ans, donc évidemment qu'on a fait des fêtes sans boire de l'alcool.
Avant tout. Et c'était avant, c'est ça.
Et évidemment qu'on en fera encore et qu'on s'amusera tout autant, je pense. Parce que le beach drinking, c'est, ça peut. Il y a certains qui, bon, qui apprécient. Moi, personnellement, je trouve que. Parce que c'est un petit peu en fait ça, c'est se murger. Hein, donc je trouve que se murger en 10 minutes, c'est vrai qu'après la soirée, ben, elle va passer. Plutôt vite et qu'on n'en profitera pas forcément plus que si on n'avait pas bu. Donc moi, oui, je pense que je suis totalement capable de faire une fête sans alcool et je pense que j'en profiterai autant que s'il y avait de l'alcool.
Bon, très bien. Sur cette bonne parole, peut-être le dernier mot à Pauline et on passera au deuxième sujet. On a un petit intermède musical aujourd'hui, c'est ça, Mathieu, le technicien en chef, tu nous proposais ça ou non, c'est pas tout à fait au point? Ah bah moi, on me propose un jeu... Je dispose, mais si c'est pas possible, c'est pas grave. On va juste écouter Pauline. T'as le temps de préparer le temps de l'intervention de Pauline, autrement on passera
juste
directement.
Juste une dernière chose, c'est que je pense que le fait de pas faire de fête avec de l'alcool, faut le faire, mais quand on est tous. C'est-à-dire que si quelqu'un se dit ce soir je bois pas d'alcool, mais que tout le monde boit de l'alcool, là la soirée elle devient pas géniale. Hein.
Nul.
Oui, on s'en seul, voilà. Quoi.
Et donc après, je pense que le binge drinking, c'est aussi entraîné par le fait qu'on soit en groupe. On commence un petit canon et puis on se dit si je reste tout seul dans mon coin, ma soirée elle sera moins bien que si je suis comme les autres, je rigolerai plus. Et donc je pense que ça peut être entraîné par ça. Voilà, c'est tout.
L'effet de groupe. Voilà. Et là, le sociologue, l'anthropologue, on l'effet de groupe, on est en plein dedans. On t'entend pas très bien. Attends, c'est peut-être ton micro qui.
Ça,
c'est mieux.
Enfin, ça arrive souvent qu'il y ait pas mal de gens qui boivent pas et. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon après ceux qui boivent, il faut qu'il y ait un réconfort. D'accord. S'il n'y a pas ce réconfort, après on peut tomber dans une dépression profonde.
Petite virgule musicale, un petit jingle. Allez, et on passe au sujet numéro 2 sur la laïcité. On prépare notre transition pendant ce temps.
Matin 15h, je me réveille comme une fleur. Marguerite,
ah bah.
Macadam a besoin d'un demi prime. Réveille matin 15h, je me réveille comme une fleur.
Salut, gars, la tête dans le cul, je sais pas quoi, c'est ça.
Pardon, je sais pas si on m'entend. je ne voulais pas chanter. Alors attendez, sortie du contexte, je crois que c'est les paroles qui arrivent. Hein, ça n'est pas moi qui parle.
Bah hier, t'étais pas bourré.
Ouais, t'étais pire.
Prise de conscience, 16h, je fais mine d'aller me coucher. Je mets les mains dans les poches, refile le cours de ma soirée. Les tickets de carte bleue, quelques tickets de caisse me font remonter le temps. Oh putain, merde, ma caisse.
Ta Ferrari n'est pas là, tu ne l'as pas prise avec toi.
T'as dû la laisser au milieu du parking du Macumba.
J'ai la mémoire qui flanche et les yeux rouges.
Et en plus,
surprise,
dans ton lit, ça bouge.
Sur ce coup, la manne, t'as été un homme.
T'as ramené croisé Jackie Sardou et d'un Pokémon.
T'as du style, et mon frère. Quand tu vois d'eau, tu ramènes dans la bombe nucléaire.
Désolé pour hier soir d'avoir fini à l'envers.
La tête dans le cul, cul dans le brouillard.
Les gars, désolé pour hier.
Désolé pour hier soir d'avoir fini à l'envers.
Promis demain, j'arrête de boire. Hier, c'était la dernière.
Rapport au sujet de tout à l'heure, c'est... Ah, il y a encore la musique. Non, ça y est, c'est fini. Merci donc Mathieu, Lucien, nos deux techniciens du jour, pour cette virgule musicale totalement en raccord avec le sujet. Ma transition va être un petit peu capillotractée peut-être, mais je fais ce que je peux. Dans certaines religions, il est interdit de boire de l'alcool, en tout cas, ça n'est pas la pratique. Alors, affaire de religion, affaire de laïcité, affaire de neutralité. C'était le 13 décembre, je crois, si je ne me trompe pas, mi-décembre en tout cas, la journée de la laïcité, qui est une journée qui a été instaurée par le gouvernement actuel. Est-ce que vous pensez que ça sert à quelque chose? Et d'abord, à quoi sert ce type de journée? Vous savez qu'il y en a beaucoup, hein, on a bientôt 365 jours sur 365 consacrés à quelque chose. Et la laïcité, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Tiedel a apporté la petite charte de laïcité à l'école, on en dira deux mots, on ne va pas tout lire, hein, c'est un peu long. Mais tu as eu le temps d'étudier ça dans le trajet, non, c'était un peu court.
Oui, c'est assez peu, mais...
Tu veux peut-être commencer par prendre la parole sur la laïcité en général. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Est-ce que c'est important? Est-ce que ça ne te concerne pas? Est-ce que tu ne vois pas très bien l'intérêt? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Est-ce que tu saurais définir la laïcité? Je commence dur avec toi. Ça tombe sur toi.
On dirait généralement que c'est la séparation entre l'Église et l'État, mais maintenant, on ne sait pas si c'est possible que ce ne soit pas la... Dans les faits, maintenant, je ne sais pas, à mon avis, c'est aussi plus complexe et justement, on
Les églises, faut bien être élargir toutes les formes
les
de religion.
Et l'État, ouais, oui, voilà.
L'église, qui a connotation oui, voilà. Catholique, on va dire.
Donc, ouais. Donc c'est vrai que, en même temps, c'est aussi un peu une spécificité en France, parce que c'est vrai que j'étais en Espagne là récemment, et bon, là-bas, voilà, il y a des cours de religion au lycée. Donc l'État est dirigé par un roi qui, donc a priori, est catholique. Donc c'est aussi. Non, mais voilà. Et,
oui, sûr,
et en
sûr.
Angleterre, c'est pareil, sauf que bon, la reine n'est pas catholique, mais.
Alors, il y a des cours sur les religions au lycée et au collège aussi. Hein. D'ailleurs, ça donne encore lieu parfois à des polémiques, ça, mais c'est inscrit au programme.
Au lycée.
Toutes, les religions, toutes les religions.
Oui, sur toutes les religions.
L'histoire des religions.
Voilà. Ouais. Alors que.
C'est
alors...
pas du catéchisme, oui. Voilà. On va parler de ça. Oui. Effectivement. Louise ?
Moi, je pense que la laïcité, c'est basé sur le respect. En fait, c'est respecter les religions. Et à ce moment-là, il faudrait que les religions respectent l'État. Je pense que c'est ça à peu près, mais je suis pas sûre, mais parce que je pense qu'en ce moment elle est pas vraiment respectée, surtout avec les attentats qu'il y a eu. Je suis pas sûre que ce soit vraiment respecté, mais voilà, c'est simple comme définition, mais bon.
Jérémy, première intervention de notre petit nouveau. Allez, on t'écoute.
Moi, je trouve que c'est important la laïcité pour que les religions, enfin surtout les trois religions monothéistes, elles soient au même niveau, enfin égales, traitées pour par exemple pour l'État, pour pas qu'il y en ait au-dessus des autres ou inférieur.
Et du coup, l'État ne se mêle d'aucune, leur permet la garantie de la liberté de culte, mais de leur côté, j'ai envie de dire, et chacun pouvant évoluer dans la sphère publique, on va dire, sans forcément afficher sa religion et pratiquer encore moins du prosélytisme. Vous connaissez ce mot-là, prosélytisme ?
Oui, il ne faut pas porter de signes ostentatoires. Enfin, c'est
et notamment, effectivement, une des choses les plus connues de la laïcité, c'est le fameux signe ostentatoire. Tu as raison. Et à l'école, donc, en quelques mots, on explique quoi ? On explique justement, il faut éviter de.
Voilà, on explique.
Allez, on t'écoute, Yadel.
On explique qu'il faut donc éviter de porter des signes ostentatoires, effectivement. Bon, après, on définit au début les principes de la laïcité, donc la séparation entre l'Église, l'État, la liberté de chacun. Et puis après, on nous parle aussi des personnels qui ont un devoir de neutralité. Mmh. Et puis de l'importance de la transmission de la laïcité aux élèves, le rejet de toutes les violences, toutes les discriminations, l'interdiction du prosélytisme. Bon, voilà.
Est-ce que vous pensez que c'est logique, c'est spécifique à la France, cette forme-là, en tout cas ce terme-là de laïcité? On en parle un peu en Turquie, mais enfin, c'est quand même très différent. Oui. C'est à la Turque, on va dire. Il y aurait bien des nuances. Mais est-ce que vous pensez que c'est légitime ? Ça sert à quelque chose ? Est-ce que, après tout, on pourrait, dans une liberté totale, afficher, comme dans certains pays hein, du monde, un certain nombre, la religion qu'on a parce qu'on a envie de le faire et... Est-ce que ça vous paraît bien ? Utile ? En ce moment en particulier, ou pas spécialement relié avec les attentats, etc. Qu'est-ce que vous pourriez dire de ça ? Oui, Lucien.
Ça peut être utile et pratique dans une certaine mesure. C'est-à-dire, par exemple, j'ai juste un exemple comme ça. Quand une maman va chercher son enfant à la crèche ou à l'école, si par exemple on est face à une maman voilée et qu'on ne peut même pas voir son visage, excusez-moi, mais ça ne donne pas trop... Du moins, on ne sait pas à qui on redonne. Quoi. Du coup, c'est mieux d'avoir quelqu'un à qui on peut voir au moins le visage. Mmh. Sur un certain point, ça peut être un peu, ça peut faire un blocage. Bah, après, j'interdis, moi, quelqu'un de voilé, je ne vais jamais... critiquer cette personne. Chez moi, par exemple, je suis dans un village où il y a une prédominance turque, il y a pas mal de femmes qui ne sont pas forcément voilées, qui ont un foulard, et ça ne me pose aucun problème. Quoi.
D'accord. Alors, c'est un petit bout de la lorgnette, mais vous savez qu'on en a parlé beaucoup aussi ces derniers temps. La cantine, la fameuse cantine, et le porc à la cantine, vous en pensez quoi ? Est-ce qu'il faut des menus de substitution ? Les laïcars, peut-être, si je puis dire, et peut-être jusqu'au boutiste, affirment qu'il n'y a pas de raison. Ils ne mangent pas de porc, ils ne mangent pas de porc, mais l'État et l'école, le lycée, le collège n'a pas forcément à proposer autre chose. Ou alors ils prendront plus de légumes ou d'entrées, enfin voilà. Je crois que c'est M. Bayrou qui avait proposé un menu végétarien. Donc il y a plusieurs possibilités. Je crois qu'on nous appelle. Alors juste avant de continuer, on va peut-être laisser Lucien, le standardiste, technicien, intervenant, il est sur tous les fronts. Il a du mal. D'ici là, peut-être Serge Dufoulon, qu'est-ce que vous entendez de ces lycéens ? Vous les trouvez...
La
compréhension
laïcité,
de la chose
la laïcité,
ils ont compris le truc ou pas ?
Oui, oui, moi je crois qu'ils ont bien compris, mais il faut, vous parlez souvent de l'État. L'État, c'est pas l'État, c'est une entité, hein, l'État. C'est la sphère publique, en fait. C'est-à-dire la société civile. L'État, il est garant pour la société civile d'un certain nombre de libertés ou de contraintes. Mais l'État, c'est un appareil administratif dont Fabien et moi nous faisons partie en tant que fonctionnaires. Je veux dire, l'État n'est pas la société. Hein. Faut pas confondre l'État et la société. Et il y a un certain nombre de choses qui ont amené la laïcité, d'événements. C'est d'abord les guerres de religion, ensuite l'époque des Lumières, il faut quand même bien le dire, c'est-à-dire la libre pensée, pouvoir aussi être athée, pas simplement religieux, pouvoir être aussi athée, c'est-à-dire ne pas avoir de croyance dans une religion, ou gnostique. Donc, après la Révolution française, ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé vers la laïcité, hein, et puis on a eu beaucoup de morts pendant les guerres de religion, donc on est allé vers la laïcité pour former, pour créer une sorte de concorde. Ok, vous croyez en ce que vous voulez, vous vivez votre foi comme vous voulez, mais chez vous, dans votre intimité. Voilà, globalement, c'est ça. Hein. Pas dans l'espace public. D'accord ? Voilà.
Donc, c'est aussi une garantie, effectivement, pour la liberté de culte.
C'est un respect de chacun, moi, je trouve.
D'accord. Louise ?
Moi, je pense qu'aussi, en France, on a un pays qui est très démocratique. Et c'est pas pareil dans tous les pays. Par exemple, en Espagne, comme disait Tiedel, j'y suis allée aussi. Et je sais que ma famille était vraiment très croyante. Et ils y allaient presque, enfin, pas tout le temps, mais vraiment beaucoup, beaucoup plus qu'ici. Et je suis pas sûre que toutes les religions soient autant tolérées dans d'autres pays que dans le nôtre, qui est assez... assez laïque et démocratique, je trouve, où il y a beaucoup de liberté et de droits et d'écoute. Ouais,
en Espagne, aujourd'hui, en 2016, oui. Que c'était moins tolérant.
Non, je veux dire qu'ils croyaient, enfin qu'ils étaient beaucoup plus croyants. Donc, je ne sais pas si c'est plus ou moins tolérant.
La religion catholique avait plus d'importance, je trouvais, pour les Espagnols que pour les Français aujourd'hui, en tout cas. Alors, c'est vrai qu'il y a un roi. Bon, après, c'est quand même une démocratie. Dans le sens
Sûr.
Liberté d'expression à peu près, enfin totale, même en Espagne, à peu près autant qu'en France. Oui, Tiedel.
Donc moi, je voulais parler de deux choses. D'abord, rebondir sur cette histoire de porc à la cantine. Là, je vois pas pourquoi on aurait besoin de se créer des problèmes avec ces histoires de porc. Enfin, pourquoi on veut mettre du porc dans les menus à la cantine? Bon, je veux dire, voilà.
C'est un animal comme un autre, en tout cas.
Oui, d'accord. Non, mais d'accord, mais à ce
de
moment-là, on voit que ça pose des problèmes.
Marcher les producteurs de porc.
Oui, voilà. Oui, mais voilà, mais à ce moment-là. D'un point de vue du point de vue de la laïcité, on voit que ça pose des problèmes, on n'en met pas, voilà.
Enfin, oui, non, mais ça coûte très cher, les autres viandes, que le porc, c'est des problèmes d'argent, monétaires.
Oui, mais enfin, bon, je veux dire, il y a déjà d'autres viandes qui sont proposées dans les cantines, c'est pas forcément du porc. Franchement, je vois pas l'intérêt.
Et donc, il faudrait s'auto-censurer, entre guillemets, c'est-à-dire, enfin, pas s'auto-censurer, mais pour éviter les problèmes, ça peut être une façon de fonctionner. Hein.
Non.
Je comprends bien, systématiquement, de ne pas mettre de porc, comme ça, le problème ne se poserait pas.
Bah, c'est-à-dire que je vois pas, à mon avis, on se crée un problème là où il n'y a pas besoin de... Là où il n'y a pas vraiment de... Là où il n'y a pas vraiment de problème, quoi. Enfin, je veux dire, il y a
après,
pas...
certains diront qu'il y a bien du poisson le vendredi, souvent, et qu'après tout, là, c'est peut-être faire, entre guillemets, un cadeau pour caricaturer les catholiques. On n'en sort jamais, quoi. Bon. Pourquoi il y a du poisson le vendredi?
C'est vrai aussi.
Pas tout le temps, aussi. Pas systématiquement, mais
bon,
souvent.
Voilà. Et puis après, bon, alors c'est vrai que par rapport au porc, bon, effectivement, est-ce que, à ce moment-là, si on met du porc dans les cantines, bon, pourquoi pas, mais à ce moment-là, il faudrait proposer un menu de substitution aux enfants qui peuvent...
Mais pourquoi des menus de substitution? Je veux dire, t'as pas envie de manger du porc, t'en manges pas, puis c'est tout.
Oui,
il y a des yaourts à côté, il y a du fromage,
oui,
c'est des protéines. Hein,
oui,
bon,
c'est vrai, mais bon.
Un bon clacos, ça fait du bien aussi.
Mais à ce moment-là, on risque aussi de mettre les enfants en porte-à-faux par rapport à leur.
Ouais, mais si c'est basé sur le respect.
Aujourd'hui, les différenciations sont pas tant avec les musulmans ou non musulmans dans les cantines. Ils sont entre végétariens et non végétariens.
Oui, mais autant préparer deux menus à la limite différents, mais qu'on. Qui conviennent à tous, je veux dire, forcément quelque chose qui peut aller avec.
Je veux dire, voilà.
Solution.
Ouais. Oui, mais.
Alors, les hindous, ils vont te dire, on va pas manger ça. Les bouddhistes vont te dire, on mange pas ça. Les jaïnistes vont dire, on mange pas ça.
Oui, c'est
vrai. Etc.
Du tout.
Bon, je veux dire, ça devient compliqué pour l'État de gérer tout ça.
Oui. Non, mais c'est vrai aussi, mais par rapport au. Du coup, quand on a du.
On a quelqu'un au téléphone, me fait signe, Quentin. On va avoir quelqu'un, s'il n'a pas renoncé avec nos bricolages maison.
Ah ouais, là, c'est...
Ah, bah ça va, monsieur Dufoulon, hein,
on n'est pas RMC ici. La radio pionnière.
Bah, au moins, on a
comme
une
il
radio.
Est moqueur. Allô,
bah, oui.
Monsieur, regardez comment monsieur Dufoulon ne se moque pas de vous, il vous connaît pas encore.
J'adore ça.
Allô?
Allô,
vous êtes une dame. Voilà.
Bonjour
madame.
Bonjour, oui.
On vous écoute, Lily, ça vous écoute, Serge Dufoulon aussi.
C'est agité chez vous aujourd'hui.
C'est agité, hein, c'est peut-être la présence de... je sais pas.
Bon, je voulais simplement poser la question aux lycéens pour savoir s'ils ont été vraiment sincères sur leur consommation d'alcool.
Ah, on revient au sujet de tout à l'heure, d'accord. Effectivement, voilà. Certains, j'ai fait un petit tour de table tout à l'heure, vous avez entendu, donc Louis va vous répondre.
Oui, moi,
merci.
Je pense... On a...
Merci.
Je ne sais pas pour les autres, j'ai pas fait des soirées avec tout le monde, mais pour ma part, j'ai été sincère.
Allô ?
Elle
est partie. Bon, continue de toute façon. Ah non, elle est pas partie. Louis va vous répondre, va répondre à votre question. Vous nous entendez ? Vous m'entendez ?
Donc, moi, je pense qu'on a que... Eh bien, c'est la radio. Vous
entendez ? C'est la radio, mais qu'on entend mal. Louis vous répond, Louis vous répond.
Moi, je pense que, qu'on a été relativement sincère. Je ne sais pas pour certaines personnes. En tout cas, pour moi, avoir dit que j'étais un peu même carrément excessif parfois dans ma consommation d'alcool, ça me paraît sincère. Enfin, je ne vois pas de raison d'avoir menti en disant que je bois trop alors que finalement, je ne bois pas. Enfin, non.
Madame, vous êtes toujours
sincère.
Là, vous nous entendez ? Madame ? Je voulais demander à la dame, en fait... Elle peut rester incognito, mais si c'était pas une maman qui voulait pas être rassurée, c'est peut-être pas le cas. Mais personne n'a reconnu la voix de sa maman, ça pourrait arriver, c'est pas sûr. Non, personne n'a reconnu la voix de sa maman. Allô, madame ? Bon, je l'entends parler de loin, je crois qu'on va pas réussir. Elle écoutera le podcast au pire, elle aura la réponse sur le podcast. Les autres, ils veulent répondre ? Sincérité, pas sincérité ? On a un baromètre, on est dictateur de mensonges là aujourd'hui, attention.
Bah, moi, je trouve que c'est important de dire la vérité. On est à la radio, bon, à la limite, si on cite pas les noms, je vois pas où est le problème de dire que c'est vrai ou faux. Ça correspond à chacun, quoi. Après, ça dépend des consommations.
Bon, madame, on vous remercie, c'est un peu compliqué. Merci d'avoir appelé, en tout cas. Ah, vous êtes toujours là.
Non, mais c'est très bien. Si, bon, ne buvez pas, c'est pas bien de boire.
D'accord. Merci pour ce message.
Ou raisonnablement.
Ou raisonnablement, vous répond quand... Merci pour vos encouragements. On va essayer de continuer en effet. J'ai entendu bonne continuation très loin. Au revoir madame.
Au revoir.
Merci.
0952, faites comme cette dame, n'hésitez pas, même si c'est un petit peu compliqué parfois, mais voilà, il est arrivé. 0952 368 531. Tu as qu'à parler en même temps que moi, Quentin, je te dirai rien. Merci. 0952 368 531. On va peut-être dire un dernier mot sur la laïcité et passer à notre dernier sujet.
Il y a quand même un truc sur la laïcité, oui, qu'il faut dire, c'est que si on voulait respecter totalement la laïcité, il faut quand même parler de toutes les écoles et les lycées et les collèges catholiques qui sont financés notamment pour les moyens par l'État, notamment en Bretagne. Et en ce sens-là, est-ce qu'il n'y a pas une hégémonie quand même de la religion catholique sur l'enseignement privé, notamment ?
Une hégémonie,
c'est-à-dire une domination d'accord, sur l'enseignement privé, puisque c'est énorme l'enseignement privé en France.
Oui.
Quelqu'un veut dire un dernier mot ?
C'est vrai que c'est quand même une question aussi complexe. Bon, c'est difficile de définir la laïcité, c'est pas forcément toujours facile, mais en plus sur des questions concrètes comme le port, c'est vrai qu'il y a il faut peser le pour et le contre, et il y a des bons arguments des deux côtés, mais bon, c'est vrai que, et puis là pareil sur les écoles catholiques, bon, on
parle bien,
on pourra certainement aussi répondre que voilà, il y a des gens qui répondraient que finalement c'est une tradition, que ça a toujours été comme ça, et que pourquoi il faut changer, et que bon, voilà. Par rapport à la Bretagne, je crois qu'il y a aussi l'Alsace, non, dans ces régions, voilà.
Qui est sous le concordat.
Dérogation.
Oui, voilà, qui est sous le ce concordat. Bon, donc à ce moment-là, c'est vrai que c'est aussi des questions compliquées, mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas non plus normal qu'il y ait des écoles favorisées par rapport à d'autres en termes de laïcité, effectivement, que des écoles catholiques soient favorisées par rapport à d'autres écoles publiques, c'est pas non plus.
C'est plus cher aussi après, hein. Ça dépend des moyens de chacun.
Alors, un peu à contre-courant pour nuancer ça, on peut dire quand même qu'une partie des mosquées sont financées aussi par l'État.
Oui.
Alors, c'est pas les écoles, mais voilà,
oui.
On finance pas que les églises.
Oui,
mais bon,
les lieux de culte,
on va venir au débat. Les églises, hein, d'ailleurs.
Oui, financent plus d'ailleurs. C'est les bonnes ouailles et la quête du dimanche, effectivement. Oui, exact.
C'est le Vatican.
Merci de rectifier.
Oui, non, mais c'est vrai aussi qu'à mon avis, où à ce moment-là on finance tous les lieux de culte et toutes les écoles religieuses, ou alors on n'en finance aucune ou aucun. Mais
faut pas faire de préférence.
Mais faut pas faire. Oui, voilà. Donc
le débat public-privé, on remonte à loin. Là, vous étiez pané qu'il y avait des gens dans les rues.
Oui, voilà.
Mais l'école privée subsistait et subsiste encore. C'est plutôt recherché. Hein, puisque...
Oui, et puis c'est très difficile d'établir un principe d'égalité dans la société. C'est tout simplement ça. Je veux dire, tu parlais très justement du patrimoine financé, les églises, etc., ou le poisson le vendredi saint, etc. Est-ce qu'on est dans un pays de tradition ou à culture chrétienne ? avec éventuellement l'apparition dès le début de l'histoire, c'est-à-dire au 2e, 3e siècle, des musulmans en Europe, bon, et notamment en France et en Corse. Ou est-ce qu'on est dans un pays où on veut de l'égalité partout? De l'égalité partout, oui. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Il faut se poser la question. Oui. Bon, oui. C'est pas facile à trancher. Hein.
Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a...
Une petite virgule musicale, rapide? Non, pas de virgule musicale, mais on passe. C'est pour nous dire qu'on passait. Non, mais on va passer directement au sujet numéro 3. Parce qu'autrement, on va faire l'après-midi entière. Moi, j'ai pas de souci, mais on est déjà un peu à la bourre. Donc, sujet numéro 3, il s'agit des diplômes. Vous êtes en train de préparer des diplômes, oui, puisque ceux qui sont en première préparent un premier diplôme, enfin le premier morceau, on va dire, du bac de français. Et au-delà, est-ce que vous pensez que le diplôme fait forcément la compétence professionnelle? On est dans un pays quand même, mais c'est pas forcément vrai dans tous les pays, je pense notamment à l'Angleterre où c'est un peu plus, beaucoup plus souple, où il faut forcément avoir... Par contre, vous m'envoyez de la musique pendant que je parle, sympa. Non, c'est bon, on m'entend toujours? D'accord, je peux parler par-dessus, génial. Monsieur Macron proposait il y a quelques semaines de cela que les coiffeurs, notamment les peintres, puissent monter un salon de coiffure sans avoir forcément leur CAP ou leur BEP ou leur bac pro, et qu'après tout, c'était les clients, pour faire simple, qui allaient reconnaître ou pas, selon la qualité de leur chevelure, à la sortie du salon de coiffure. Oui, Serge Dufoulon montre sa tête.
Rasé.
Il n'a pas trop de travail à faire pour aller chez le coiffeur. Lui, alors, il ne fait pas... pour la moussage, peut-être. Il fait travailler le barbier, je ne sais pas. Coiffeur-barbier, ça revient, ça. Mais voilà, pour un prof aussi, pourquoi pas. On peut parler aussi des profs. Est-ce que, forcément, il faut avoir fait beaucoup d'années d'études? Est-ce que vous pensez que, je ne sais pas, moi, pour... alors, c'est parfois un débat. Vous savez que pendant... il n'y a pas si longtemps que ça, le brevet des collèges, puis le bac, suffisait pour être professeur des écoles, instituteur, on disait à l'époque. Alors, que le niveau de diplôme augmente, c'est normal, c'est logique. Est-ce que vous pensez qu'il faut encore continuer? Est-ce qu'un jour, on s'arrêtera? Je suis un peu provocateur, mais est-ce toujours plus de diplômes, plus de diplômes? Est-ce que forcément, ça veut dire plus compétent? Ou est-ce qu'à un moment donné, il y a peut-être une espèce de seuil à établir? Et en gros, voilà, le diplôme n'est-il pas parfois un frein aussi pour trouver un emploi? Parce que si vous ne l'avez pas, eh bien, vous ne pouvez pas entrer dans tel ou tel type d'embauche, pour parler à l'ancienne. Et donc voilà, à tel job va correspondre, à tel emploi va correspondre tel diplôme. Autrement, vous ne pouvez pas y avoir accès. Il faut avoir ce concours-là. Et puis bon, alors après, on part dans le prestigieux, l'ENA, Sciences Po, etc. Et là, encore moins, vous ne serez jamais préfet, évidemment, si vous avez un bac pro. Et on en revient à des considérations sociales qu'on va peut-être évoquer. Et de l'entre-soi. Oui, Pauline. Et puis Louise. Et puis peut-être Ilan et Alexandre, quand même, le petit nouveau qu'on n'a pas entendu. Allez, on écoute Pauline.
Bah, écoutez, moi, je pense que dans tous les métiers, il y a un minimum à avoir parce que... c'est sûr que les gens qui n'ont pas forcément eu la chance de pouvoir passer des diplômes il y a 15-20 ans, on peut leur donner une chance. Mais aujourd'hui, tous les étudiants, enfin tous les enfants de moins de 16 ans vont à l'école et ont l'occasion de passer un diplôme, que ce soit CAP ou plus prestigieux.
La scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans,
voilà,
pas forcément l'école.
Oui, la scolarité.
Ça à la maison.
Bref, passons. Et je pense que... si tout le monde se met à devenir le métier dont il, enfin à devenir la personne avec le métier dont il rêvait depuis longtemps, ça peut être bien, mais ça peut aussi avoir un revers assez négatif, une perte de qualité due au manque de diplôme. Si un coiffeur n'a pas de diplôme coiffeur, qu'est-ce qui nous prouve qu'il sera, oui, formation, mais la formation
sanctionnée par un diplôme
débouche sur un diplôme en général.
En France, systématiquement, oui, on peut dire.
Voilà. Pas donc, forcément. Je pense que c'est vrai que le système français est assez sévère quant au diplôme. Donc, c'est sûr que sans diplôme, on fait rien. Donc, ça, il faudrait l'assouplir un petit peu. Mais de là à ne plus avoir de diplôme du tout, je pense que c'est un peu trop radical à mon goût.
Diplôme concours, c'est un peu différent, mais il y a un lien. Mais par exemple, pour être enseignant, on est le seul pays au monde, si je ne dis pas de bêtises, où c'est un concours pour devenir enseignant. Mmh. Ailleurs, c'est un diplôme, c'est un niveau, une formation, justement. Donc il y a un principe un peu différent, le côté reproduction sociale aussi, concours de la fonction publique, en tout cas pour les fonctionnaires par définition. Donc voilà, on a pas mal de spécificités en France, critiquables ou pas, hein, j'en sais rien, c'est vous qui allez me le dire. Oui, Lucien.
C'est pas forcément plus mal parce que par exemple pour des métiers comme enseignant, je sais qu'en Norvège ou en Suède, Finlande, dans un des trois de ces pays-là, j'avais vu un exemple dans le pays, dans le film Demain, où justement il disait que pour devenir enseignant dans ces pays-là, il fallait des études comme 5 ans, mais que faites sur l'enfant. Alors qu'en France, par exemple, on peut avoir fait maths sup, maths pro, un truc vraiment très prestigieux en maths, par exemple, en physique ou dans une autre matière. Après, essayer de passer, il me semble qu'il y a une formation d'un ou deux ans pour devenir professeur. Mais sauf que le professeur ne sera pas du tout à l'écoute des élèves, aura absolument aucune...
Tu veux dire qu'on peut être très bon en maths et un mauvais prof de maths.
Exactement. Alors que dans ces pays-là, ils sont vraiment juste sur l'apprentissage, sur arriver à écouter l'élève et arriver... La pédagogie, exactement. Arriver à que le prof soit au service de l'élève. Et vu que le prof est comparé, il est comparé là-bas comme un égal, il n'y a même plus de problème entre... Les profs sont totalement respectés. C'est énorme. Il y a vraiment un truc en France à faire là-dessus, par exemple.
Est-ce que c'est pas une garantie quand même d'égalité, souvent ce qu'on répond, c'est-à-dire que c'est le même concours, le même diplôme qui fait que celui qui l'a réussi par rapport à celui qui ne l'a pas réussi n'est pas forcément plus compétent, mais en tout cas, on sait qu'il est passé par les épreuves par lesquelles tout le monde est passé en quelque sorte.
Oui, mais alors les épreuves, comment tu les détermines, Fabien? Tu pourrais dire celui qui fait le 100 mètres en moins de 9 secondes, il sera
bien sûr, c'est subjectif. C'est subjectif.
Voilà, prof de maths, pourquoi pas. Il faut un système de sélection ou d'élimination. C'est pas forcément les plus justes, parce que tu as en partie raison, et Fabien vous a donné un indice tout à l'heure important. Il vous a dit, votre prof, il y a quelques années, on sortait du bac, on pouvait tout de suite faire l'école normale et être instit. Pourquoi aujourd'hui on établit de la précarité pour des millions de jeunes qui doivent attendre le master pour pouvoir être instit, alors qu'on a des besoins à ce niveau-là? Pourquoi quelqu'un qui est pleinement compétent en sport, qui va faire le 100 mètres, allez j'exagère, en 9 secondes, 10 dixièmes, quelque chose comme ça, il devrait avoir un CAP ou un BEP ou un brevet sportif, etc. Il y a quand même des problèmes. Pourquoi quelqu'un qui sait jardiner, qui travaille déjà dans le développement durable, comme Pierre Rabhi par exemple, qui est très connu dans la région, en Ardèche et dans la Drôme, qui est un super jardinier, qui fait de la permaculture et tout, on va lui demander peut-être d'avoir un diplôme pour venir enseigner la permaculture dans un lycée agricole. C'est ça la question aussi de la transmission.
Paradoxe, oui.
C'est la transmission des savoirs. Qu'est-ce que c'est? Comment se fait la transmission des savoirs?
Le film Demain dont tu parlais, Lucien, c'est Mélanie Laurent, c'est ça qui l'a fait, là, qui est sorti?
Oui, qui est sorti il y a très peu de temps.
Oui, c'est ce qui me semblait. Lucien? Pardon, c'est Adèle. Lucien, je viens de lui parler.
Oui, moi, je trouve quand même qu'en France, il y a quand même une espèce d'inflation de diplômes. Alors, il y a beaucoup de diplômes, de plus en plus, et on a l'impression qu'ils perdent tous un petit peu de valeur. Et c'est vrai que bon,
trop de diplômes tue le diplôme.
Voilà. Bah, oui, non, mais c'est vrai. c'est vrai que bon, par rapport
c'est Chirac.
Par rapport au bac, c'est un examen qui est très important. Mais quand on va voir des gens qui peuvent aussi connaître ce sujet, même des profs ou des que je nommerai pas, même des profs qui vous diront, mais de toute façon le bac vous l'aurez, c'est pas bon, voilà. Et c'est vrai que du coup, c'est des gens qui disent après, voilà, c'est un diplôme qui ne signifie rien, qui veut rien dire, parce que de toute façon, tout le monde l'a, tout le monde va l'avoir. Donc après, il faut encore rajouter un diplôme pour être bien sûr que les gens puissent entrer à l'université ou dans les grandes écoles. Puis après, on va encore faire des diplômes pour que les gens puissent après continuer après 2-3 ans. Et puis bon, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de... Il y a quand même beaucoup de diplômes qui servent pas forcément...
Alexandre, pour être prof, pour être kiné, pour être peintre, est-ce que tu penses que la compétence peut exister en dehors du diplôme officiel estampillé éducation nationale?
Je pense que ça dépend du métier, mais quand on parle de peintre ou de coiffeur, c'est plutôt quelque chose d'artistique ou ça dépend
technique,
plutôt, oui, technique, ouais. Qui dépend plutôt de sa capacité personnelle et pas forcément d'un diplôme ou peut-être qui servira à rien, c'est peut-être juste une preuve qui rassure le client. Donc
après, il y a la partie technique et la partie théorique aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus tomber dans une espèce de mépris qui nous ferait dire à certains, après tout, un coiffeur, il coupe des cheveux, c'est technique et parfois un peu artistique, qui connaissent Charlemagne, Victor Hugo, ou en limite, on s'en fout, vous voyez ce que je veux dire? C'est au contraire, c'est-à-dire, mais tout métier nécessite quand même au moins un minimum de culture. Alors, la question, c'est où s'arrête le minimum, où s'arrête le maximum, plutôt, et effectivement, le côté de l'inflation, comme disait Serge Dufoulon. Oui, Louise.
Moi, je voulais dire, tout à l'heure, on parlait de la Finlande, ou je sais plus où, je trouve que c'est une très bonne approche, parce que, ouais, vaut mieux, je trouve que valider des compétences, vaut mieux valider la compétence de la pédagogie, parce que c'est ça qui est le plus important. En général, les profs, il y en a beaucoup qui savent faire, mais il y en a aussi qui s'énervent vite parce que l'enfant ne comprend pas, ou même des parents. Bon, les parents, c'est pas leur... Enfin, si, c'est leur travail aussi, mais c'est d'une autre manière, et je trouve que c'est pas vraiment... Enfin, c'est pas vraiment juste, par exemple. Ouais, je trouve que le système éducatif en Finlande, ou je sais plus, les autres pays, c'est bien, c'est mieux qu'ici.
Et les nordiques sont souvent cités en référence, en tout cas. Bon, après, il faudrait aller voir peut-être un peu plus près, mais c'est vrai que c'est souvent considéré comme une référence.
Et je voulais dire aussi que je l'avais déjà dit dans une ancienne CCC, et que, par exemple, moi, mon père, quand il était jeune, il était prof de gym à un moment. Il n'avait pas du tout fait de diplôme, rien. Maintenant, ce ne serait plus jamais possible. Parce
prof
que,
de PS, voilà, tu veux dire, dans un collège lycée
prof de gym plutôt, mais gymnastique au niveau des adultes.
Auprès d'adultes, d'accord.
Mais il n'avait pas de diplôme, rien, et maintenant ce serait trop insécuritaire, il y aurait trop de critères de responsabilité pour que ce soit possible, je pense.
Oui, c'est juste un exemple. Et aux interdits qu'on évoquait tout à l'heure. Pauline, de nouveau, et puis. Allez, Ilan, qu'on n'a pas entendu, je crois encore.
Oui,
Ilan vient de se réveiller, mais Ilan a toujours la sagesse en lui, et il va nous annoncer la phrase du jour. Non, je suis... C'est dur de t'annoncer comme ça. On t'écoute. Vas-y, vas-y.
Bah, moi, je voulais juste dire que.
Il y a la politesse.
Il vient de me donner l'autorisation, monsieur.
Oh, vas-y, il parlera juste
avec le bac. Avec le bac, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez contradictoire. C'est que sans le bac, on ne fait rien, mais avec que le bac, on ne fait rien non plus.
Bien d'accord.
À la limite, le supprimer, c'est pas plus mal. Hein.
C'est qu'un passeport, comme on dit toujours, pour aller vers l'univers du foulon et universitaire, de manière générale. Allez, Ilan, quand même.
Oui, alors, le temps que je retrouve vraiment le cours de ma pensée. Non, je sais plus. Je m'ai perdu.
Vas-y, on t'écoute.
On t'écoute.
Oui, mais je me souviens plus.
Qui veut parler de Tiedel?
Je vous ai dit, Tiedel, il est pas vraiment réveillé aujourd'hui.
Tiedel,
tu as le temps de revenir. Tiedel.
Non, moi je voulais parler, j'ai eu la chance de faire l'expérience du système scolaire britannique pendant une assez longue période de temps, 9 mois, ouais, une année. Et je trouve qu'il y a le diplôme le plus basique, le plus simple, qui est la note à la fin d'un contrôle, là-bas, est remplacé, je trouve, par quelque chose de plus pertinent, qui est un niveau. C'est-à-dire que dans chaque matière, vous avez 8 niveaux, et chaque niveau correspond à des compétences. Donc on sait exactement où on se situe en termes de compétences à un moment ou à un autre.
On a déjà eu ce débat dans une émission sur la suppression des notes.
Hein, oui, mais c'est pas la question des notes, mais par rapport au diplôme. Et puis, et de la même façon, sur d'autres diplômes plus compliqués, comme le bac, par exemple, là-bas, c'est pas des notes, mais non seulement c'est pas des notes, mais en plus on sait exactement à quelle compétence ça correspond. Donc ce sont des diplômes qui.
Oui, mais le problème c'est pas le diplôme, si tu veux. Si tu veux remonter, le problème c'est pas le diplôme, c'est le contenu de la formation qui est sanctionné par un diplôme. Oui. Si tu veux faire peintre en bâtiment, ce que disait Fabien, t'as pas besoin d'aller étudier peut-être la géographie ou l'histoire des fourmis ou je veux dire voilà. Il faut connaître tes produits, il faut connaître les techniques d'application d'emplâtre, de peinture, etc. Si tu veux faire prof, on te demandera d'autres compétences, d'autres qualifications. Donc voilà, qu'est-ce qu'on met dans la formation? Est-ce que les formations aujourd'hui sont ad hoc? Par exemple, quand tu vois les grands fondateurs de Google, de tous les sites internet très connus, Twitter, etc., mettre leurs enfants dans des écoles Maffesoli, il n'y a pas de tablette, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a rien du tout. Des écoles libres, Maffesoli, des écoles créatives. Bon, est-ce que vous, il faut que vous ayez payé par le Conseil général des tablettes, des ordinateurs, etc. Et à côté de ça, peut-être moins d'enseignants ou d'autres types d'enseignements de plus ou moins bonne qualité. C'est ça la question. Après, qu'il y ait une inflation de diplômes, on est d'accord. Je veux dire, là-dessus, chaque filière va donner son diplôme, etc. pour des questions de monopole. Délivrer un diplôme, c'est une question de monopole. C'est moi qui le délivre et c'est pas toi. C'est ma filière en sociologie et pas la filière d'histoire, etc. etc. Mais je veux dire, le problème, c'est le contenu des formations. Qu'est-ce qu'on apprend à nos jeunes, nos gamins d'abord, les minots, puis après à vous, les lycéens, les collégiens, puis après aux étudiants, qu'est-ce qu'on leur transmet comme type de savoir, c'est-à-dire comme valeur sociétale, des valeurs pour vivre ensemble.
Et ça, c'est très difficile de se mettre d'accord là-dessus, y compris entre enseignants qui sont entre guillemets des professionnels, ça commence par ça. Et même les parents, les parents ne sont pas d'accord entre eux, les professionnels ne sont pas d'accord entre eux. Enfin, c'est tous les débats du moment.
C'est ça, le débat.
La fameuse réforme du collège, on est en plein dedans. Ilan, tu as retrouvé ce que tu voulais dire? Et on passera au bled et à l'université pour terminer.
Donc, c'était aussi pour quand on parlait de l'inflation du nombre de diplômes. Et puis peut-être aussi de l'augmentation du nombre de diplômes pour pouvoir accéder à un poste, notamment enseignant, donc, qui est passé à. C'est un master maintenant. Et donc, c'est peut-être aussi pour. Pour une. La sécurité, ce serait pas vraiment le mot, mais pour rassurer un petit peu un niveau derrière, alors que bon, c'est peut-être pas
rassurer
forcément...
Rassurer qui ? Celui qui va pratiquer le métier ou ceux qui vont avoir affaire à lui, si je puis dire ? Le public
pas rassurer, assurer.
Ah, assurer.
Assurer un niveau derrière pour...
Ça revient pas au même.
Pour, alors que c'est pas forcément indispensable. Peut-être, ouais, peut-être qu'en 2-3 ans, on peut faire le même chose.
Oui. Quelqu'un qui est très bon à l'oral et qui est mauvais à l'écrit, il va peut-être faire une belle prestation à l'oral, mais quelqu'un qui est très timide à l'oral, le concours ne sera pas fait pour lui. Donc le type de concours est adapté à une sorte de moyenne un peu flottante, on ne sait pas qui ça concerne. Si tu es très bon, par exemple brillant en mathématiques, tu vas passer le concours de prof, le CAPES ou la GREG, tu vas réussir à l'écrit. Puis à l'oral, tu vas rester comme ça, alors que peut-être qu'avec tes élèves, ça se passera très bien. On n'en sait rien et on va se priver de talents comme toi. Donc comment sont faits les concours aussi par rapport à qui ? Pourquoi des handicapés ne peuvent pas passer le concours de la même manière que nous, ou des non-voyants, ou bon, etc. etc.
Et à l'inverse, peut-être que des professeurs brillants à la grecque, à l'oral, devant deux membres de jury ou trois membres de jury, seront très mauvais devant 30 adolescents, terribles comme vous. Parce que ce n'est pas le même public, ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas le même nombre pour le coup. Enfin, voilà. Et vice-versa, effectivement. Comme
peut-être
disait
que dans les diplômes, pourrait y avoir une partie, enfin, il y a un petit peu des stages en début de...
Oui, il y a quelques sages, mais bon, plus symbolique qu'autre chose.
Ça pourrait peut-être être aussi un critère de...
sont plus d'observation.
Un critère de voilà, de délivration du diplôme, de se rendre compte comment le candidat est en classe.
Ses compétences. Ouais. Alors lui, il a un certain nombre de diplômes qui l'ont amené du bled pour le point de départ jusqu'à l'université pour le point d'arrivée où il se trouve encore, en plus de pratiquer régulièrement l'exercice de la grande gueule sur RMC Info. C'est donc Serge Dufoulon. Merci encore d'être venu. On va dire quelques mots quand même de votre parcours. Peut-être qu'ils vont avoir des questions par rapport à ce parcours, parce qu'ils ont fait quelques recherches, attention, sur... Ils connaissent normalement à peu près tout de vous. Mais alors, ce titre intéressant, du bled à l'université, il est, comment dirais-je, accrocheur. Ouais. Alors pourquoi du bled ? La Tunisie, c'est ça ?
Le bled, quand on parle entre gens, ça peut être la Tunisie, l'Algérie ou le Maghreb en général,
c'est-à-dire,
moi je suis né en Tunisie, mais ça peut être aussi le village, le trou du cul du monde en Ardèche ou dans la Drôme. Le bled, quoi, on vient du bled, on est un blédard, le type, on n'a jamais rien vu d'autre que les vaches, et puis voilà, quoi, l'épicerie du coin. Donc le bled, c'est vraiment le trou, quelque part.
Ici, c'est les Vertaco.
À l'université, qui est le rayonnement, donc la symbolique. Du titre, c'est ça. L'université, c'est le rayonnement international, etc. Bon, voilà.
Dis à Serge Dufoulon comment ils s'appellent, les habitants du Vercors, parce qu'il faut le savoir. Ça.
Vertaco.
Non, mais il y a une suite. Les Vertaco-mi-coréens, faut le dire.
Comi-coréens, je crois.
Vertaco-mi-coréens. Non, je crois que ça va. Wow. C'est compliqué, hein, faut la connaître.
Vous êtes vachement plus calé que moi là-dessus.
Et prof, c'est un métier que vous vouliez faire depuis longtemps ou c'est venu.
Alors, professeur des universités, c'est un titre. Hein.
Oui.
Ah, c'est un titre. Hein. D'ailleurs, les Allemands l'ont même sur la carte d'identité, docteur ou professeur, puisque c'est un titre.
Mais le métier d'enseignant, vous voulez faire depuis longtemps ?
Moi, prof, j'ai arrêté le lycée en première. J'en avais marre, je m'emmerdais un peu, je m'ennuyais, pour le dire plus poliment. Donc, je suis parti en Afrique vendre des encyclopédies, ce que je raconte là-dessus. Et ensuite, quand j'ai vu toutes ces cultures africaines, et puis des gens formidables, des hommes, des femmes, des enfants formidables, avec une culture magnifique, un artisanat magnifique, des paysages, etc., des modes de vie particuliers, j'ai eu envie de devenir anthropologue. Donc j'ai passé à l'époque l'examen d'entrée en fac, qui correspond au bac, puisqu'on peut, on n'a pas perdu la vie si on rate le bac, hein. On peut toujours revenir après, hein. Faut le savoir. Le système français est fait de telle manière qu'on peut toujours reprendre des études.
De plus en plus, hein. Normalement.
Et de plus en plus. Et en plus, quand on revient avec de la maturité, qu'on sait ce qu'on veut, on ne perd pas de temps. Donc moi, je suis revenu, j'ai passé l'examen d'entrée en fac tout en travaillant à côté et j'ai fait toutes mes études pour devenir anthropologue et sociologue. Voilà.
Anthropologue, tout le monde sait ce que c'est exactement ?
Anthropologue, c'est celui qui, c'est Indiana Jones, c'est celui qui étudie les cultures différentes, si tu veux. Hein, qui va en Afrique, en Asie, qui étudie les tribus, les cultures différentes, etc.
Est-ce que vous avez des questions sur sa vie, son œuvre ? On n'a pas le temps de voir le livre, qu'il nous l'a gentiment apporté aujourd'hui, mais on va vite se rattraper. C'est donc aux éditions Horizon, itinéraire d'une grande gueule, du bled à l'université, mais sur son activité aussi à la radio. Enfin, est-ce que vous avez des questions, Louise ?
Moi, je voulais savoir, le métier d'anthropologue, est-ce que c'est... Enfin, comment on fait, je veux dire, parce que c'est un métier qui est rémunéré quand même.
Bah, c'est un fonctionnaire de la fonction
dans le meilleur des cas.
Comme prof, oui.
Non, mais je sais pas, enfin, je veux dire, vu qu'on part souvent enfin, je pense qu'on voyage beaucoup, non ?
Bah, quand on est enseignant-chercheur, de toute façon, quelle que soit la discipline, on voyage pas mal parce qu'il y a des colloques, il y a des conférences, il y a des universités d'été, donc on est amené à voyager. Donc on n'est pas beaucoup payé dans la fonction publique, en général en France, hein, par rapport à d'autres, puisque les profs, il faut savoir que les professeurs français à l'école, au lycée et à l'université sont les moins bien payés d'Europe en France. Mmh. Hein, pratiquement, on est dans la fourchette basse.
Il n'y a que l'Italie derrière nous. Tous les autres pays sont
même l'Italie, ils sont au-dessus. Je crois, c'est Portugal qui sont juste à la limite. Donc, quelque part, les autres sont payés trois fois plus que nous. Par contre, c'est vrai qu'on a des petits avantages, la sécurité de l'emploi. Puis, de temps en temps, on nous invite à un colloque, à une conférence, etc. Bon, aujourd'hui, je suis venu sur mes propres deniers, vous voir. Hein, c'était le challenge. Traverser le Vercors.
On apprécie d'autant plus. C'était un challenge
traverser
en soi.
Traverser le Vercors. Parce
il n'est joué en plus.
L'invitation de votre prof était vraiment sympathique et j'avais envie d'être avec vous. Voilà.
Ah, c'est gentil. Ça,
bah, merci beaucoup.
On a partagé,
ça nous a apporté, je pense.
Il y a des questions sur, d'autres questions ? Oui, vas-y.
Ça serait toujours dans le même thème. Je voudrais juste savoir si vous avez une spécialisation de culture en tant qu'anthropologue.
Oui, alors soit ça, c'est des cultures, tu as raison, ce qu'on appelle des aires culturelles en tant qu'anthropologue, l'Asie, Madagascar et les Mascareignes, l'Afrique, etc., ou une tribu particulière, ou alors c'est des pratiques sociales, c'est-à-dire la religion ou les pratiques de table. Ou, bon, moi, par exemple, je suis spécialisé sur les religions. Le monde du travail aussi, l'anthropologie des navires de guerre plus précisément, et les organisations de travail militaires. Mais après, j'ai fait des tas de travaux dans des banlieues, dans un tas de trucs. On peut passer d'un objet à l'autre, c'est toujours les mêmes méthodes qui nous caractérisent.
Et voilà. Comment on arrive alors à la radio ? C'est vous qui avez été sollicité ?
C'est alors
à
la radio, c'est ce que je raconte dans les premières pages, c'est-à-dire que je me suis énervé un jour sur la route en écoutant RMC. Je pensais que les gens qui étaient à la radio, les animateurs, ne disaient pas des choses tout à fait justes, justement pour défendre un enseignant. Un collègue enseignant qui était dans le secondaire qui avait fait faire une rédaction, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, sur le suicide. Oui, et donc, je me suis arrêté sur le bord de la route et j'ai poussé une grande gueule, un coup de gueule. Et le Standard m'a tout de suite passé l'antenne, m'a mis tout de suite à l'antenne. Et là, j'ai dit, vous racontez des bêtises. À vous écouter, tous les enseignants pousseraient leurs élèves au suicide. Bon, et c'est venu comme ça. Ils m'ont dit, pourquoi vous ne venez pas en discuter avec nous à la radio, etc. Donc, j'y suis allé.
Gardé.
Et ils m'ont gardé.
Vous n'étiez pas trop mauvais ?
Ils vous ont gardé. Apparemment, non.
Ah bon, on a regardé des podcasts tout à l'heure, effectivement, sur le mariage pour tous, notamment, et sur les jeunes de 16 ans, les qui avaient caillassé des voitures, je crois, enfin, ou qui avaient commis des actes de délinquance. C'était assez chaud. Bon, j'espère qu'on a été tout aussi convaincants et dynamiques, comme d'habitude, j'espère. Comment vous les avez trouvés, ces lycéens et ces lycéens avant de se quitter ?
Ils sont super sympas. Puis ils vont apprendre à être de plus en plus autonomes, de plus en plus libres. Il faut qu'ils conquièrent leur liberté, leur espace de liberté, en buvant modérément, bien sûr.
Pour faire la jonction avec le premier sujet.
Mais prenez votre vie à plein poumon, là. Respirez, laissez-vous aller.
Merci en tout cas d'être venu, c'est très
sympathique.
Merci
à vous tous.
Louise, dernier mot de la fin.
Oui, je voulais juste demander, en fait, juste anthropologue, comment on fait ? On doit écrire des livres, on doit
faire
des recherches ?
Vous faites des études en sociologie, anthropologie, c'est la même section, après le bac et puis à l'université, puis vous montez, licence, master et puis doctorat, puis voilà.
Merci.
Très bien,
merci
à toutes et à tous.
Beaucoup.
Notre
merci.
Prochain CCC, c'est le mercredi 3 février, 12h10. Merci de votre fidélité et restez fidèles à Radio Diwa 107.5 FM ou RDIWA partout, RDIWA.fr partout dans le monde, de Grenoble à Paris en passant par les grandes gueules, enfin c'est formidable. Écoutez les lycéennes et lycéens, ils ont des choses à dire, ils vous l'ont encore prouvé ce matin. Quentin, tu veux vraiment avoir le mot de la fin ? Tu aimes bien toi avoir le mot de la fin, on te le laisse aller.
Toujours. Je voulais terminer pour dire que pendant les vacances j'étais allé au cinéma et que j'ai regardé La Belle et Sébastien.
Belle tout court. La Belle, ça peut-être dans tes fantasmes, mais là c'est Belle et Sébastien.
Et
il n'y a pas l'article défini. De...
Non, et que c'était un film très bien avec de très beaux paysages et que voilà, j'ai pas regretté d'aller.
Tu as raison, parce que parfois on fait à la fin de l'émission un petit coup de cœur, coup de gueule. Tu as raison, on aurait eu notre coup de cœur.
Du coup, je me suis dit qu'on pouvait pas passer à côté. Du coup, voilà, si vous pouvez le voir, voyez-le.
Voilà, je crois que Mathieu nous envoie le générique de fin, ça veut dire qu'on est trop bavard. Merci à toutes, merci à tous. Rendez-vous donc le 3 février. Merci encore à Serge Dufoulon. La grande gueule.
Merci à vous.